Et c'est l'heure maintenant de retrouver le chapitre 3 de notre grand feuilleton radiophonique Grain de sable sous le capot, Guillaume.
Ouais, Grain de sable sous le capot, c'est l'ouvrage rédigé par Marcel Duron alias Hubert Truxler et qui raconte en fait tout simplement sa vie d'OS sur les usines, sur les chaînes d'usines Peugeot Sochaux. Ouais, donc, dans l'est de la France, pendant 30 ans, donc de 1972 à 2003, Hubert était OS à la chaîne, hein, ouvrier de base, et il raconte en fait la chronique de son quotidien, une sorte de journal, prise de notes, les traces de sa vie à la chaîne, et donc il nous raconte les crises, l'ambiance, la camaraderie, les grèves, les rivalités entre ouvriers et petits chefs, les conditions, l'évolution du travail aussi durant cette période. D'ailleurs, c'est l'objet de cette troisième partie, puisque à la suite, on commence sur la grève de 89, et à la suite de ça, on va voir qu'au sein de l'entreprise, on va introduire les nouvelles conceptions managériales sur l'organisation du temps de travail, sur la rentabilité, sur les nouveaux modes de fonctionnement sur l'organisation du travail. Donc c'est cette partie-là sur laquelle on termine cette troisième partie de Grain de sable sous le capot. Innovation. Merci.
On va continuer à avancer dans l'histoire de Sochaux, et on arrive au dernier chapitre, au dernier récit qu'on trouve dans votre livre. C'est la grève de 1989 qui se déroule évidemment dans un autre contexte que 1981. C'est pas les mêmes personnes au pouvoir. Tout à fait. Enfin, les choses ont évolué entre temps. Et est-ce qu'on peut parler qu'est-ce qui, 8 ans après la grande grève de 81, fait qu'il y a à nouveau un truc de une mobilisation de cette ampleur qui se passe?
Ouais. Alors, au départ, Calvet nous octroie une augmentation, mais vraiment dérisoire, quelque chose de 0,1%, vraiment dérisoire. Et lui, il a un salaire, il s'est augmenté le salaire en je sais plus combien, énorme, qui était rapidement repris par le canard enchaîné. Alors là, ça fait un tollé dans l'usine et tout. Donc ça a été un peu fédérateur, ça, pour bouger. Bon, en même temps, il y avait un ras-le-bol aussi du boulot, tout ça, des tas de trucs, de la pression, du management japonais qui commençait à bien se mettre en place, surtout que la nouvelle usine, très moderne, allait en commencer. C'était déjà ouvert, l'atelier peinture était déjà performant, en marche et tout, quoi, mise en place, oui. Donc, tout ça, mais le truc fédérateur, c'est le salaire que Calvet s'octroyait, alors que nous, on avait vraiment des miettes, quoi.
Non, c'est une grève, quand même, qui est partie à Mulhouse.
C'est parti de Mulhouse, oui.
Mais c'était toutes les réformes qu'on a évoqué en matière d'organisation du travail et de mise en place d'un nouveau management. Toutes ces années 80 avaient été très dures, et puis il y avait une espèce de ras-le-bol qui a explosé à ce moment-là. La grève n'est pas partie à Sochaux, mais à la forge
une semaine avant.
Et habituellement, c'est Sochaux qui donne le ton dans cette... Non, mais là, c'est Mulhouse. Et les gens de Sochaux n'ont pas voulu avoir l'air d'en exiger moins que ceux de Mulhouse. Ça joue, hein.
C'était une concurrence.
Et puis, il y avait le lancement d'une nouvelle voiture.
La 605,
qui était une voiture luxueuse, qui était...
En même temps, oui. C'était l'occasion de faire rêve, parce que là, on avait un moyen de pression, on s'abordait le lancement de la 605, là, c'était... ça faisait mal, quoi. Donc on avait un moyen de pression là, important. Oui, donc c'est Mulhouse qui a commencé. Et dans la semaine à Sochaux, les gars ils disent « Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne bouge pas. » Au départ, les syndicats, bon, à Sochaux, ils disaient « Donc, il y a un peu une pression de la base. » Ils disent « Mais nous, il faut aussi qu'on y aille, quoi. » Et donc, on a démarré une semaine après. Au départ, très peu de monde. Et puis, tout doucement, ça s'est enflé. L'AFO s'est mis dans le mouvement. Donc là, ça a gonflé en masse les trucs.
Oui, parce que dès l'instant où les gens ont le sentiment que voilà, tous les syndicats, masse, donc les trois syndicats, FO était vraiment très proche du patron. Mais
pour une fois qu'ils se mettaient en rêve, là, c'est que vraiment...
Voilà, donc ça a redonné du moral, un moral très fort aux grévistes.
Oui, oui.
Et ils ont eu aussi le sentiment qu'ils pouvaient enfin expliquer à une opinion publique un peu ce qui se passait du côté du travail et du salaire. Hein. Parce que, bon, toutes ces années 80, c'est quand même le moment où la perception du monde ouvrier se transforme. Nous, on parle d'invisibilisation du monde ouvrier, mais il y a eu ça. Il y a l'arrivée des socialistes au pouvoir et puis l'idée que les ouvriers... C'est fini, hein, que c'est. On est arrivé à l'âge de l'ouvrier bachelier, des techniciens. Il y a eu les transformations du système scolaire et la montée du chômage, hein, quand même. Je crois que le mot n'a pas été prononcé, mais ces années 80, et si tout ça est accepté, c'est parce que les gens sont morts de trouille. Il n'y a pas eu de licenciement sec à Sochaux, mais enfin, on est passé de 40 000 ouvriers à sans doute à 30 000, 25 000, etc. 25 000. Le recrutement est arrêté. Les responsables de l'enseignement technique, ils amènent directement leurs élèves à la NPE. L'embauche est absolument arrêtée. C'est sur ce fond de trouille que... Et ce sentiment chez les ouvriers de la région que personne ne comprend leurs problèmes en matière de travail, la pression qui s'exerce sur eux. Et tout à coup, la bonde lâche du côté de Mulhouse, et puis ils s'y sont engouffrés et ils se sont mis à parler aux journalistes qui venaient enquêter. Il y a eu un effet de surprise à la fois. Il me semble que ça s'explique par la manière dont on avait cessé de parler des questions ouvrières dans ces années 80. Hein. C'est quand même aujourd'hui, il y a plusieurs livres qui reviennent sur ces années 80. Hein. C'est la révolution conservatrice, ça veut dire quelque chose. Hein. Mais c'est à ce moment-là qu'on a cessé de parler de classe ouvrière. Elle a été rejetée dans l'archaïsme, etc. Et tout ça, ça revenait fort. Hein. Tu es d'accord, Weber?
Oui, alors 89, les médias, à Sochaux, tout est calme, tout va bien, la 406 est sur la bonne voie, tout ça, c'est formidable, quoi. Et d'un seul coup, ça éclate, là, boum, bon, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, et on a commencé à s'apercevoir que, cette japonisation des relations, ça avait quand même des effets durs sur certains ouvriers qui il y avait la montée des intérimaires aussi chômage et précarité. Mmh. On a vu beaucoup d'intérimaires à la télé venir dire, nous, on a le droit de rien dire, si on dit quelque chose, on va se faire virer, on est sûr qu'on va pas être repris. Et ça a été... C'était nouveau, hein. Les médias ne s'en occupaient pas. Et le fait qu'on accorde de l'importance à ces choses-là, ça a contribué à regonfler le moral des salariés.
Et puis, vous retrouvez, ce que vous expliquez, avec un mouvement de solidarité quasiment national qui aide à tenir la grève, un mouvement qui vous surprend.
Oui, parce que dans d'autres usines, dans d'autres secteurs, bon, il y avait la pression aussi, la pression était un peu générale. les gens se disaient, bon, si Peugeot gagne, nous, on va aussi avoir bénéficié un peu des retombées de ça, quoi. Donc, ils déléguaient un peu leur truc. Ils disaient, bon, on vous soutient, on est d'accord avec vous. Voilà, quoi. Donc, on a une solidarité très importante, ouais.
Et ce que tu soulignes dans ton texte, c'est que bon, les revendications, elles apparaissaient comme des revendications d'argent, de salaire, etc. Et que quand on discutait avec les ouvriers, le malaise était surtout au niveau du boulot,
oui, le boulot,
l'intensification
cadences,
du travail, etc. Vous aviez fait votre petit groupe de gens ouvriers en colère, etc., qui était sur la question du travail,
plus
des formes
salaire,
du travail,
ouais.
Beaucoup plus que sur celle des salaires. Et on avait l'impression que les syndicats n'avaient pas de mots pour traduire cette insatisfaction violente en matière de travail qui touchait à l'intensification, le fait que les temps de pause avaient été ratissés, que les ouvriers des années 80 n'avaient plus cette espèce de bonheur de travailler qui était bon sur un fond démographique évident, c'est que comme le recrutement s'est totalement arrêté, les ouvriers ont vieilli aussi. Et il y a la conjonction intensification du travail et vieillissement. Ça produisait des résultats que personne n'avait vu et ça venait à la surface d'un seul coup.
Et puis c'est quand même un autre contexte économique que celui de 80. C'est un contexte où quand même on est en période d'expansion, où on commence à regagner beaucoup d'argent dans les entreprises. Donc du coup, mais par contre, la redistribution, elle n'a pas changé.
C'est pas redistribué.
Voilà, c'est ça. Donc là, on sent qu'il y a un contexte politique plus favorable à l'émergence de revendications.
C'est un truc dont on parle pas lorsqu'on parle de l'automobile, mais en 68, les ouvriers de Sochaux, c'était vraiment une élite ouvrière. Ils partaient tous en vacances. Bébert le disait tout à l'heure, les salariés, même un OS turc, avaient un salaire une fois et demie supérieur à celui d'un ouvrier qualifié des Vosges. Et il va se produire un truc qui est déjà parfaitement visible en 89. Les OS vont perdre beaucoup en niveau de salaire, mais les ouvriers qualifiés aussi, massivement. Oui. Hein, et la peur de se trouver, dans une situation très proche de celle des OS de base, elle se manifeste chez les ouvriers professionnels. La fierté ouvrière en a pris un bon coup et ça va aller en s'accentuant dans les années 90. Le groupe des ouvriers professionnels, c'est central. Il va être laminé. Et entre les OS de montage et les techniciens formés à l'électronique, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, en 89, les ouvriers professionnels commencent à prendre conscience de ça. Il y en a de nombreux que j'ai rencontrés 3 ou 4 ans après qui disent à ce moment-là, on a compris, il faut passer notre bac, ceux qui n'ont pas eu leur bac, il faut continuer des études, et ils cherchent à se réinscrire. François Clair, qui a joué un rôle et continue à jouer un rôle essentiel sur la discrimination syndicale, à ce moment-là, avec 3 copains, 2 de la CGT, 1 de la CFDT, tous les 4 se sont inscrits pour passer le bac. Ils l'ont obtenu dans ces années-là, parce que j'avais fait des entretiens avec eux bien avant qu'ils soient devenus connus, mais on était en train de se sentir ravalé au rang des OS et il fallait pousser en avant. L'inquiétude devant l'avenir se manifeste sous 1000 formes et ça éclate en 89.
Pourquoi tu fais grève ? Chef, vous ne pensez pas qu'il y a un malaise ? C'est pas que ça m'amuse de perdre de l'argent. Oui, mais encore, quelle est ta revendication prioritaire ? Vous voulez savoir ce que je réclame à titre personnel ? 5e semaine sans perte de l'ancienneté. Un jour tous les 5 ans. Ce qui est acquis, et je veux pouvoir prendre des congés quand cela me convient. 38 heures tout de suite. Actuellement, on fait 42h30, non 40 heures. Moi, je passe 42h30 par semaine dans cette usine pourrie. Ce n'est pas normal qu'on travaille autant alors qu'il y a 2 millions de chômeurs. Il faut partager. Certains ont des enfants qui, dans quelques années, ne trouveront pas de travail. Abaisser les cadences. Dans un premier temps, revenir aux charges de travail de juillet. Vous voyez que je ne suis pas un feignant, puisque je place cette revendication en 3e position. 400 francs d'augmentation de salaire. Il faut y ajouter l'ajustement de tous les salaires sur celui qui est le plus haut, pour une même catégorie de personnel. Ce n'est pas normal que les primes au choix permettent un si grand écart entre les salaires d'ouvriers qui font le même boulot. La suppression du DIPO, et particulièrement de la note E, qui se réfère aux opinions politiques et syndicales. C'est tout à fait illégal. Suppression aussi du contrôle médical Peugeot. Si le médecin traitant décide de donner des jours de repos, c'est qu'il pense que c'est nécessaire à la guérison. Ou alors c'est un con le toubib. Beaucoup abusent et sont toujours en maladie. S'ils avaient un travail plus intéressant, de meilleures conditions de travail, dans une meilleure ambiance, si les postes étaient moins chargés, s'il n'y avait pas ce climat malsain et les répressions, si le chef excédait, bon c'est tout ? Non, le droit au bibliobus de stationner sur l'autogare. Beaucoup d'ouvriers ne savent même pas qu'il y a une bibliothèque au comité d'établissement. Mon chef noircit plusieurs feuilles de son bloc, notant toutes mes paroles. Pas de doute que ce compte-rendu va être remis à ses supérieurs. Je m'en fiche. Je sais que cette enquête est menée dans tous les secteurs. Ils auront de quoi lire, les contremaîtres, chefs de service et d'atelier.
Ce qui est étonnant, c'est que tout ce que vous décrivez, alors, c'est que sur la pénibilité au travail, sur le manque de prise, quelque part, on a l'impression que le manque de prise sur l'environnement au travail de la part des ouvriers, tout ça, c'est pas du tout traduit dans des revendications. Même les tentatives que vous avez avec un, vous racontez ça très bien, vous avez des tentatives avec un certain nombre de vos camarades d'essayer de créer un groupe parallèle dans cette grève pour impulser des revendications sur les conditions de travail, et tout ça, ça tombe à plat.
Oui, les syndicats voulaient se limiter à l'augmentation de salaire parce que c'était fédérateur, les cadences, tout ça, on verra plus tard. Mais c'est quand il y a les moyens de pression qu'il fallait y aller. C'était l'occasion ou jamais, après c'est trop tard, c'est sûr. Quelques années après, ils se sont aperçus, ben ouais, les cadences, bon, mais après il n'y a plus rien, il n'y a plus plus de matériaux pour le rapport de force, quoi. Il n'y a plus rien. Donc,
dans ces années-là, par exemple, ce que disent les médecins du travail ou des choses comme ça, ou les médecins qui s'intéressent au travail, bon, c'est ignoré par les syndicats. On l'a souvent dit. C'est pas pris en compte. La fatigue nerveuse, les formes de stress, tout ça, c'est dans les années 90 qu'on va se mettre à en parler. Mais ça n'existe pas comme revendication, le compte des maladies professionnel, il n'est pas fait. Ça va se mettre en place et les gens de Sochaux vont être très. Les militants de Sochaux vont être à la pointe là-dessus. Mais en 89, il n'y a pas les mots pour faire passer ça dans des revendications exprimables.
Et même si on le traduit plus dans les enjeux d'aujourd'hui, on l'avait déjà dit dans des émissions antérieures, c'est. Cette question de la nature du travail, elle n'est pas du tout travaillée pour le coup par les organisations de politiques de gauche. Quoi. C'est-à-dire, on voit bien, les partis d'extrême gauche disent tout le temps, pour nous, ce qui est important, c'est la question de l'emploi, c'est quel type d'emploi. Ouais. Et le travail, on n'en parle pas parce que bon, c'est rentré dans la logique du capitalisme que d'en parler. Je suis pas sûr que ce soit complètement satisfaisant parce que les gens ne sont pas là que pour gagner un salaire. Ils y passent aussi du temps et on peut essayer de trouver des réponses à ces questions qui sont pas évidentes d'inventer d'autres formes d'organisation du travail, d'autres formes de travail qui sont en rupture avec celles pratiquées aujourd'hui. C'est pas une question qu'on peut laisser sur le côté. Ça nous éloigne peut-être un peu.
Ah non, on s'éloigne pas. C'est des questions non, que non, Bébert soulève dans son texte.
Il n'y a pas de réponse.
Il y avait, oui, ces petits noyaux d'ouvriers qui sont très conscients de ça, qui ne sont pas liés à des organisations d'extrême gauche, hein, qui ont fait des pancartes.
Ouais, j'ai dit, bon, c'est le moment d'y aller.
Des affiches. Je me rappelle ces ouvriers qui ont des gros trucs sur la tête. On n'a pas le droit d'aller pisser. Il voilà, y en a cadence, marre.
Cadence, 20%.
Voilà, c'était des trucs concernant la forme même du travail et le fait que là, toute liberté soit anéantie dans le nouveau travail. C'est parce que c'est le moment où les ateliers de montage, là, ce qui va devenir habillage caisse, avant ça s'appelait finition. Bon, c'est juste le moment de la transition, les premières opérations de reconstruction, parce que l'usine va être reconstruite sur place et avec ces nouveaux ateliers, c'est là. Et beaucoup d'ouvriers ont déjà été confrontés à ces formes de travail qui sont pas du travail robotisé, hein, mais les robots sont à côté et le rythme est donné par les robots et on sait qu'on n'y échappera pas. Hein. Et c'est présent dans la tête de beaucoup de salariés.
Et d'ailleurs, pour vous, c'est difficile ces années 90 physiquement
Physiquement, oui, c'est... L'usure, bon, l'ambiance pourrie, tout ça, ça devient de plus en plus dur. Ouais. Ouais, ouais.
Mais justement, est-ce que 1989, en tout cas pour vous, ou peut-être plus largement pour Sochaux, c'est pas le chant du cygne, est-ce que c'est pas la dernière manifestation lourde, là, pour le coup, des ouvriers, est-ce que ça marque pas une étape, quoi, le avant, après, de cette grève-là?
C'est jamais pareil après. Bon, puis en plus, l'usine de Sochaux était éclatée. Il y a eu la nouvelle usine, donc les gens étaient transférés dans la nouvelle usine. Il y a un secteur comme la garniture qui a complètement disparu. Après, il y a la fonderie aussi qui a disparu. Il y a des secteurs qui ont été sous-traités, délocalisés, donc... Il reste pratiquement plus que le montage, quoi, final, le montage final.
C'est un truc central qui va se déclencher à partir de ce moment-là. Enfin, c'était déjà un peu enclenché, mais la réorganisation de il ne faut pas se focaliser sur la seule usine de Sochaux. À côté de l'usine, collé à l'usine, il va y avoir le parc du Technoland qui va se construire à partir de 92-93. Mais le processus est engagé avant. Il y a entre 100 et 150 entreprises qui sont des équipementiers qui travaillent essentiellement pour Peugeot et usine collée, ça va avoir jusqu'à 3000 salariés en fixe et puis très nombreux intérimaires. Ces boîtes-là fonctionnent souvent avec la moitié de leurs effectifs en précaire. Alors la caractéristique de ces ouvriers, de ces ouvrières complètement différente de celle des anciens, mais bon, le développement de cette nouvelle organisation, c'est capital. Et entre Sochaux et Mulhouse, séparés par 70 km, il va y avoir une floraison de parcs, de PIF, comme on dit, de parcs industriels de fabrication qui desservent les deux usines. Donc l'usine éclate, hein, et c'est des jeunes femmes, souvent issues de l'immigration, qui vont être recrutées. Et l'âge moyen va être de 25 ans, tandis que l'âge moyen des gens en CDI, en fixe à Sochaux, sera autour de 52 ans. Hein. Et c'est toutes les usines d'automobiles de construction. Renault, c'est pareil. Hein. L'âge moyen, c'est plus de 50 ans maintenant. 50-51 ans. Hein. C'est ça qui... C'est fondamentalement différent de ce qui existait dans les années 70. Et souvent, on ne le voit pas. puis quelque chose de frappant, puisqu'on parlait de la grève de 89, ce qui va, le contexte dans lequel la grève s'achève, c'est la chute du mur de Berlin. C'est juste, ça se passe en novembre, là, enfin les derniers soubresauts, et le moral d'un certain nombre de gens a né très, très affecté. Moi, je me rappelle... J'évoquais ça avec toi, le leader des OS de la carrosserie, je ne vais pas dire son nom, c'était un type très CFDT, des OS CFDT de la carrosserie, c'était un type très militant, dans les 50 ans, célibataire, tout dévoué à sa cause. Il avait été bouleversé par la chute du mur de Berlin en février 90. Il me disait, mais c'est pas vrai, on raconte que des conneries, c'est pas vrai, c'est pas possible ce qu'on dit sur l'URSS, sur l'Allemagne de l'Est, c'est pas possible. Il y avait des types qui construisaient réellement le socialisme. C'était un type de la CFDT. Et 5 mois plus tard, il est devenu secrétaire de la CFDT. Il avait à nouveau complètement changé son fusil d'épaule, et alors qu'il était auparavant hostile à la direction Nota. Bon, c'est un type déboussolé. Et là, c'est le cas d'un militant CFDT. Mais chez des militants cégétistes, bon, le travail avait été fait depuis plus longtemps. Mais enfin, c'était des gens déboussolés. Ça n'a pas contribué à la clarification des choses. Et cette conjonction de processus fait que... la démoralisation des années 90, elle est quand même entrée dans les têtes. Hein.
J'ai pas mal de copains qui sont partis à 89. Ils ont changé de boîte ou, bon, dégoûtés, quoi. Complètement dégoûtés. Bon, Peugeot terminé. Quitte à galérer ailleurs, mais ils sont partis. Du coup, bah, y a moins de force, moins de résistance, quoi, puisque bon, tous les meilleurs partent, il ne reste plus que la crème après.
Nous progresse qu'elle va pas. pas osé me replacer. Vers le travail et la bonne source. Mais aujourd'hui, tout est suspens. Les bâtiments en désert à terrible. Dès que sonne du chantier à rester. Ça calque du l'aube nouvelle arrive. Est-ce le progrès alors que vous pas? Est-ce le progrès alors que vous pas? Est-ce le progrès alors que vous pas? Est-ce le progrès alors que vous pas?
Toujours donc sur Fréquence Paris Pluriel, toujours les Oirinos du Front et toujours Marcel Durand alias Hubert Truxler et Michel Pialou, puisque nous avons été les rencontrer à l'occasion de la parution aux éditions Agone de l'ouvrage de Hubert Truxler, Grain de sable sous le capot, 1972-2003, chronique sur la chaîne des usines Peugeot-Sochaux dans les Vosges.
J'aurais voulu revenir sur un point qui est évoqué dans le livre, et puis Michel, que vous évoquez dans la plupart de vos enquêtes aussi, c'est les transformations de ces rapports de génération, vous l'avez dit. Bon, avec l'avenue des intérimaires, évidemment, on est dans un autre contexte. Quand on commence jeune à Peugeot dans les années 90, et quand on commençait jeune à Peugeot dans les années 70, j'aurais bien voulu avoir votre regard là-dessus sur la manière dont se sont transformés, je veux dire, les rapports entre les générations au travail.
Ouais, c'est sûr que quand Peugeot prend les intérimaires, déjà il les trie pas mal sur le volet, et après il leur propose la carotte, bon, si tu travailles bien, tu seras embauché. Donc le jeune qui est plein de santé, il y va à fond. Mm-hmm. Sauf que l'ancien qui est là, il faut qu'il suive aussi. Vu que l'intérimaire y arrive, lui qui vient d'arriver, qui ne connaît pas le boulot, il faut que l'ancien aussi travaille aussi vite que lui, quoi. Donc ça pose pas mal de conflits.
Parce qu'ils n'ont pas engagé les enfants, par exemple, des plus anciens.
Ça dépend. Très très peu, en fait. Peu, ouais.
Il n'y a pas eu de recrutement ouvrier, proprement ouvrier, à partir de entre 79 et 86, on peut dire, il n'y a eu aucun recrutement ouvrier. Et un peu de recrutement du côté technicien et cadre. Après, il va y avoir des recrutements au niveau élevé. Technicien, cadre, toute cette électronique, il faut la faire marcher. Et bon, on va recruter des gens, niveau bac pro, BTS, beaucoup de BTS. C'est BTS que les OS vieillissants de l'usine. Moi, d'après ce que j'ai entendu, appelle toujours le petit compte BTS, les petits comptes BTS, parce que, ils les représentent toujours avec leur serviette sous le bras, etc. Ce sont des gens qui sont fils d'ouvriers, mais cette question du recours aux intérimaires à deux ou trois reprises, tout à coup, il y en a 3000, puis il y en a 5000. Alors, en 99, entre 99 et 2000, 2001, il va y en avoir 4500 dans l'usine, mais ça, au même moment, mais il y en a eu, avec le turnover, énormément. Bon, ça se combine avec cette élévation fantastique du niveau de scolarisation, du niveau de diplôme, et des attentes qui sont impliquées dans le fait qu'on a le bac, on est à bac plus 1, plus 2, et on attend quelque chose, et on ne se sent pas ouvrier lorsqu'on a... maintenant, il y a une retombée des attentes, mais dans les années 90, la distance se creuse formidablement entre ces. Il y a des accusations implicites ou explicites qui sont portées des deux côtés. Les jeunes, ils pensent que ces vieux, ils ne cherchent qu'à picoler, non, mais c'est trop. Mais enfin, ils les voient comme des types installés qui ont un avantage. Qui ignore même, qui cherche à en faire le moins possible, et il y a des discours terriblement dépréciateurs de la part de ces intérimaires qui rament dans la galère depuis 3 ou 4 ans. Quant aux vieux, ils les voient, ces jeunes, presque comme des tout prêts à entrer, à faire le jeu de la direction et à jouer le jeu des faillots à venir travailler le samedi, le dimanche. Puisque leur objectif, c'est de se faire bien voir et d'être intégré. Et même pendant la grève de 89, les syndicats ont dit aux jeunes intérimaires, non, vous restez là, on sait bien, vous ne pouvez pas vous suicider, vous restez là, on ne vous considère pas comme des jeunes. Mais il y en avait parmi les vieux qui disaient, il y a tous cons qui sont là. Dès qu'on fait un récit, on voit les oppositions, les différences, mais les oppositions entre générations. Et puis ça allait en se creusant.
Et en même temps, dans la dernière partie du livre, vous évoquez aussi le cas d'intérimaires qui se rebellent, qui vont taper.
Oui, ça arrive parce qu'au départ, on leur promet plein de choses. Tu seras embauché, tout ça, tu auras un bon poste, et puis ça n'arrive pas. Donc, il y a aussi le fait que dans les intérimaires, il y a des immigrés, et certains chefs sont assez racistes. Et avec les vieux, ils ont tendance à les brusquer, les vieux. Et le vieux, comme le vieux s'écrase, le chef en profite. Vieux machin, viens ici, t'as oublié la vie, c'est tout. Et le jeune, il est direct. Des fois, le chef se prend marron, direct. L'intérimaire est viré, mais il s'en fout, de toute façon, rien à foutre. S'il n'était pas parti aujourd'hui, il partirait dans deux jours, de toute façon. Ça chauffait. Il y a même eu des tracts comme quoi les chefs se lamentaient qu'il fallait qu'ils soient préparés à avoir cet assaut des jeunes et tout, cette violence et tout ça.
Mais c'est moins concerté que ça ne pouvait l'être dans les années 70.
C'était très très personnel, quoi. C'était très 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 isolé aussi, des trucs. Ils se concertaient pas. C'était un coup de.
C'est pas du tout politisé.
C'était impulsif.
Le truc classique qui a été signalé dans beaucoup de textes, c'est le chef qui se fait crever les pneus sur le parking. Il y en a eu beaucoup. Les chefs qui demandaient une protection.
Ils demandaient une protection.
un des effets, c'est que les garçons étaient soupçonnés, très mal vus, et les filles d'origine immigrée, qui auparavant n'étaient pas du tout présentes sur les chaînes de montage, ont été portées au nu. Parce que on ne leur trouvait que des qualités, toutes les qualités idéales. C'était souvent des filles qui avaient été dans des familles nombreuses, qui savaient apaiser les tensions. Et donc, moi, j'ai eu des propos d'un agent de maîtrise extraordinaire là-dessus. Je disais, C'est formidable quand il y a ces filles-là, elles apaisent les tensions entre les jeunes eux-mêmes qui souvent se bagarrent sur des conneries, mais entre les jeunes et les vieux, elles mettent du liant parce qu'elles elles savent parler aux uns et aux autres. Donc il y avait l'apologie des filles issues de l'immigration et la suspicion contre ces jeunes, les garçons, qui étaient en plus souvent, les garçons étaient souvent des types venus du Nord, il y en avait des cités en gros, mais il y en avait aussi beaucoup qui étaient venus du Nord, qui fauchaient aussi, qui fauchaient des pièces, des trucs comme ça. Les filles honnêtes, on pouvait compter sur leur honnêteté. Bon, c'est des développements nouveaux, mais les clivages entre générations sont.
En même temps, les filles travaillaient aussi durement que les gars. C'est incroyable, quoi. Et le jeune gars était vexé, parce qu'il arrive plus mieux que moi. Là aussi, il y avait des tensions entre garçons jeunes et filles.
On voit ça dans le film de Patrick Jean, qui a pu filmer La Nuit en 2000, Les Ateliers. Tu vois ce que c'est, le film de Patrick Jean? C'est un film qui est sorti sur la 5, qu'il avait fait avec nous. Ça s'appelle Ouvrier, c'est pas la classe. Et c'est un beau film. Au fond, il porte sur la présence des intérimaires à Sochaux entre 1999 et 2001. Et sans dire qu'il n'avait aucun rapport avec nous, mais enfin, comme il tournait pour la 5, il a obtenu le droit de tourner dans les ateliers la nuit. Parce qu'en plus, ces filles, on les faisait très souvent travailler. On avait créé une équipe de nuit pour faire face, et on les faisait souvent travailler.
Parce qu'elles avaient le droit de travailler la
nuit. Oui, voilà, avec la nouvelle. Elles étaient très contentes de travailler la nuit aussi, parce qu'il y avait une surprime. Mais le film montre beaucoup d'aspects de cette arrivée. Et on voit. Très caractéristique, c'est qu'il n'a pas eu le droit de tourner dans aucune des usines du Technoland. Personne n'a voulu lui. Même bien que les directeurs aient été encouragés par la direction de l'usine Peugeot, les conditions du travail y sont telles c'est que vraiment, il ne voulait pas.
Les conditions sont pires encore à Technoland.
Ah oui, ça on peut dire ça parce que à Peugeot dans ces années 99-2001, des centaines de filles qui étaient employées en CDI dans des usines du Technoland ou aussi qui étaient employées comme vendeuses dans les zones sont venues à Sochaux en intérim. Elles ont laissé tomber des boulots en CDI pour venir en intérim à Sochaux et pour aller travailler sur des secteurs de montage qui étaient quand même des secteurs de montage très très pénibles, mais parce que le climat, l'ambiance, y passait pour être meilleur. Parce qu'on peut dire en gros qu'à Sochaux, il y a la continuation de la présence de syndicats forts qui ont des difficultés, mais notamment la CGT a renforcé sa capacité militante. Elle est présente, elle suit les choses de près. Tandis que dans ces usines-là, à quelques exceptions près, les syndicats sont exclus. Sans que de fait, toutes ces boîtes-là, il arrive sans cesse, Bébert m'envoie des coupures de journaux, des histoires scandaleuses, tu vois, qui émergent, des accidents de travail, des choses comme ça. Ces boîtes fonctionnent toujours avec un volant de précaire, même quand elles sont en difficulté, elles peuvent. Je veux dire, quand il n'y a pas de. Comme ces dernières années, il n'y avait pas, surchauffe, mais elles ont 20 à 30% de gens en CDI, en CDD ou en. En intérim, c'est la condition. Gorge et Mathieu, les économistes ont très bien étudié ça. Montre, c'est une condition de... Donc tout ce qui avait été, ces choses qu'on évoquait tout à l'heure, ces nouvelles formes de technologie de management des années 80 de Sochaux, on retrouve à l'état paroxystique dans ces boîtes d'équipementiers. Et là, les gens se pensent plus comme ouvriers, ils se pensent comme opérateurs ou opératrices, en espérant pouvoir en sortir.
On commence à avoir l'habitude. Mes trois fidèles camarades de l'équipe me rejoignent sous la passerelle. Distribution d'autocollants CGT et CFDT. On prend l'air, frais ce matin, par le bout du châssis, portière Sochaux. Au passage, Qualité et Fonderie grossissent nos rangs. L'embout et Mécanique Sud, ceux du Nord, s'agglutinent encore, alors que nous arrivons au pied du building aux portes toujours hermétiques. Les cravates avancent parallèlement sur le trottoir opposé. Prise de parole des délégués devant l'édifice. Peugeot doit négocier. Peugeot, si tu continues, la classe ouvrière, la classe ouvrière. Peugeot, si tu continues, la classe ouvrière te bottera le cul. On rencontre toujours les mêmes têtes. Les responsables syndicaux marchent derrière le J9 au parleur, suivent les banderoles où on peut lire « Abat les cadences »,« Nos 38 heures, pas de chômeurs », »,« CGT, CFDT, Peugeot ». Il y a aussi un nombre incalculable de pancartes CGT et CFDT disséminées dans la masse mouvante des camarades. Certains se sont changés. Beaucoup, j'en suis, ont gardé le bleu de travail pour ne pas être confondus avec les badauds. C'est la ruée en direction des bars de la rue d'Helvétie, en face de l'ARS, succursale Peugeot. Nous arrivons à la gare de Montbéliard, massés autour de la camionnette haut-parleur. Les responsables syndicaux remercient le député socialiste, Guy Bèche, et une poignée d'autres personnalités, dont le maire d'Audincourt, de leur présence. Voici les trois points forts de la prise de parole syndicale. Éloge aux travailleurs immigrés et français unis dans l'action, 50% dans chaque camp. Syndiquez-vous, c'est aussi apporter de l'argent à la centrale, argent égale nerf de la guerre. Il est aussi question d'indemniser les camarades mis à pied. Il faut nationaliser Peugeot. Puis les camarades s'en retournent vers la portière Montbéliard. Déjà, certains ont lâché le cortège en ville, assurés de ne pas reprendre le travail, le débrayage se prolongeant jusqu'à 13h15. La semaine est finie, vive le week-end. Le slogan qui trouve le plus d'écho est « Union, action, négociation ». Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'usine, le troisième mot est transformé par certaines bouches en « occupation ». Ce mot d'ordre est de plus en plus repris. Dans sa voiture haut-parleur, le délégué tente de corriger le tir, en vain. Un groupe qui ne cesse de grossir entoure le véhicule leader en scandant « Occupation, occupation ». Le délégué cégétiste de garniture s'époumonne désespérément dans son haut-parleur portatif pour couvrir le nouveau slogan de la tendance dure de la CGT. La CFDT semble plus nuancée et son délégué au service de la voiture pilote trouve la voie médiane en changeant de slogan « Coucou Peugeot, nous voilà déjà !»
Peut-être avant de terminer cette émission, moi je voulais revenir sur le livre lui-même, qui non seulement il y a la rareté du point de vue, le travail qui a été fait par un OS d'écrire durant des années ce qu'étaient les grèves, ce qu'étaient les conditions de travail, tout ça, mais il y a aussi un vrai plaisir de lecture, quoi. Vous avez quoi que vous en disiez, parce que je vous ai vu dans une librairie il y a quelques mois expliquer que c'est juste que vous avez pris la peine de le faire, mais que n'importe qui pourrait le faire. Je pense pas du tout. Je pense qu'il y a, vraiment une écriture. Je vous disais tout à l'heure en antenne que la grève de 89, telle que vous la décrivez, il y a un côté polar, quoi. Je dirais, il y a presque un suspense de savoir comment tout ça va se terminer. Il y a aussi ce propre plaisir. Et moi, je m'interrogeais un petit peu sur d'où ça vient. Vous vous êtes baigné de beaucoup de littérature, c'est quelque chose qui vous êtes nourri de quoi pour
J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire, ça va les deux ensemble, je pense, lire et écrire. Bon, c'est vrai que je me défoule pas mal en écrivant. En même temps que, comme au départ c'était pour des copains, je voulais que ce soit plaisant et tout. Donc, j'essaie avec pas mal d'humour, que ça les incite à lire. Hein. Bon, mes lecteurs, bon, il y a Vian, il y a Queneau, il y a cette branche-là. Sinon, c'est très éclectique, quoi. Je lis un peu tout, toutes sortes de trucs. Mais j'aime bien un peu jouer sur les mots, tout ça.
Et puis, vous avez pu bénéficier de cette formidable bibliothèque.
Ah ouais, cette bibliothèque était formidable.
C'était, Peugeot, la, du CE.
C'était la bibliothèque la plus grande de France. Qui a rendu beaucoup de service aux ouvriers et tout, ce qui était très, très, très fréquenté. Quand la coalition FO est passée au CE, la première chose qu'ils ont fait, c'est raser la bibliothèque. Quoi.
Coalition FO, CFTC.
FO, CFTC, CGC, ouais. Voilà, ouais.
Et peut-être, Michel, vous qui êtes un lecteur bien plus ancien que nous, parce que nous, on a attendu la republication Paragone de cet ouvrage qui était déjà paru dans les années 90 aux éditions La Brèche. Comment vous appréciez cette écriture, ces documents?
Oui, moi je trouve que...
Vous faites une préface très élogieuse de ce livre, mais...
Oui, et j'insiste peut-être pas assez sur les qualités de style. Hein. Y a une expérience qui est engagée là-dedans. Bon, c'est vrai, c'est sa vie qui... Mais en même temps, il y a des trouvailles de style... une intensité de vie, hein, avec une capacité à jouer sur les mots que je trouve tout à fait frappante, qu'on n'a pas dans la littérature ouvrière habituellement. Y a aussi un sens de la composition, hein, une manière d'alterner des passages un peu pathétiques et puis des passages vraiment drôles. Même la dernière partie qui est centrée sur la façon dont la vieille classe ouvrière là est en train de s'user au travail. Il parle de ses copains. C'était un moment où il était absolument incapable d'écrire. Il a pu écrire après, lorsque il a été mis en pré-retraite. Mais même là, ces passages-là sont truffés d'anecdotes et puis racontés sur un ton assez unique. 30 ans après avoir commencé à écrire, il a retrouvé ce style assez unique. Oui, voilà, que peu de gens... je ne saurais pas le qualifier plus précisément, mais il y a une invention continue.
J'essaie de faire des paragraphes courts, parce que si c'est un grand texte très très long avec des grandes phrases, c'est très difficile à lire. Donc il faut faire des trucs courts, assez concis, enfin, c'est mon avis. Un peu dans le style des tracts de LCR, de Lutte ouvrière, bon, des trucs pris à chaud comme ça, et crac, bien incisif.
Oui, des petites anecdotes, mais qui sont toujours révélatrices de quelque
bon,
chose.
Bon, à chaud, un truc à chaud, à vif,
Voilà. C'est donc Grande Sable sous le capot, Résistance et contre-culture ouvrière, les chaînes de montage de Peugeot 1972-2003, avec une préface de Michel Pialou. C'est publié donc sous le nom de Marcel Durand, puisque vous avez gardé pour cette édition le pseudonyme que vous utilisiez à l'époque. Et c'est d'ailleurs très joliment, très bien édité par Paragone. Il y a aussi là... il y a un travail d'édition à la hauteur de votre travail d'écriture, voilà. Merci beaucoup.
Voilà, donc vous venez d'entendre la voix de Pierre et Essenric, qui donc avait été enregistré Michel Pialou et surtout Hubert Truxler, auteur de Grain de sable sous le capot, 1972-2003, chronique d'une nouvelle d'OS de chez Peugeot Sochaux. paru en seconde édition chez Agone. Une première édition était parue chez La Brèche dans les années 90, en 90 même. Et donc c'était l'occasion de, avec ces deux auteurs, ce sociologue et cet auteur, de faire un peu le point sur la condition ouvrière, pour dire vite, et sur justement cette expérience assez remarquable d'OS sur les chaînes des usines Peugeot pendant plus de 30 ans, et son expérience de réfractaire un peu à l'encadrement managériel qui s'est progressivement mis en place au cours des années 80-90. Voilà, on espère que ça vous a intéressé. On essaiera de mettre assez rapidement ces trois séries d'émissions qu'on vient de réaliser sur notre site leldf.org. Et on vous rappelle que disponible Grain de sable sous le capot aux éditions Agone. Voilà, donc l'émission prend fin. On vous remercie de votre attention et on vous laisse dans quelques minutes dans les bras de l'émission malgache Les Échos du Capricorne. À la semaine prochaine.